L'heure des informations avec vous, Camille Manière, bonsoir.
Bonsoir à tous. Une violence tristement quotidienne en Afghanistan, deux attaques en deux jours et plus de 60 morts dans ce pays qui bascule à nouveau dans le chaos entre autorités débordées, insurgés talibans et poussés de Daesh. Nous appellerons Sonia Ghezali à Kaboul. En Pologne, la surprise est venue du sommet de l'État. Le président Duda, qui oppose son veto à la réforme de la justice, qui est dénoncée depuis des semaines par l'opposition et par l'Union européenne. Est-ce la fin de la crise politique? Nous poserons la question à Maya Szymanowska. Le camp Trump entame son marathon face aux commissions d'enquête. Enquête du Congrès américain, ça commence aujourd'hui avec Jared Kushner devant les sénateurs. Comment se défend-il des accusations de collusion avec Moscou? C'est ce que nous verrons avec Philippe Randé. Avec Florence Turm, nous nous interrogerons sur le casse-tête diplomatique et judiciaire du retour en France des familles de djihadistes du groupe État islamique. Nous irons également dans le Jura à Foucherand où des aides-soignantes de l'EHPAD local sont en grève depuis 3 mois avec un soutien de la population qui ne se dément pas. Un reportage de Géraldine Allot. Puis à 18h15, Raphaël, ce sera du grain à moudre d'été.
Qui a peur de la liberté de la presse, Camille Magnard? On posera cette question à Pierre Aski, qui est le nouveau président de Reporters sans frontières, à Lacon Mani, qui est grand reporter pour Libération, et à Arnaud Mercier, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas.
Nous, on n'a pas peur de la liberté de l'information. À feu et à sang, l'Afghanistan replonge dans la violence au quotidien. 2 jours donc et 2 attaques qui ont fait plus d'une 60aine de morts, des dizaines de blessés. D'abord dans ce massacre perpétré hier dans un hôpital du centre du pays. Et puis ensuite dans l'explosion d'une voiture piégée. C'était ce matin à Kaboul où nous retrouvons Sonia Ghezali.
Il est 6h45 quand l'explosion a eu lieu. Dans la rue, les commerçants ont déjà ouvert leurs échoppes. Des étudiants marchent vers l'université. La circulation est fluide. Une voiture s'élance soudainement vers un bus avant d'exploser. Il se trouve au premier barrage de sécurité qui mène à la résidence d'un chef politique appartenant à la communauté Hazara. Coup du hasard ou non, difficile d'en avoir la certitude. Les talibans qui revendiquent l'attentat affirment s'en être pris à un véhicule transportant des agents des services de renseignement. Les autorités affirment, elles, que le bus transportait des employés du ministère des Mines. Les insurgés ont intensifié leurs attaques ces derniers jours à travers le pays, notamment dans le centre de l'Afghanistan, à Rol, où ils ont visé un hôpital sur une trentaine de personnes et prenant le contrôle d'un district, comme dans la province voisine de Faryab. L'attentat de ce matin intervient un an, jour pour jour, après un attentat suicide meurtrier contre la communauté Hazara qui manifestait dans la capitale afghane. Le cortège avait été frappé par l'organisation État islamique qui signait son premier attentat au cœur de Kaboul. La minorité religieuse avait prévu de défiler aujourd'hui en mémoire des victimes de la manifestation du 23 juillet 2016. Elle y a renoncé sous la pression de la présidence afghane qui met en cause le risque élevé d'attentats. Le pays semble s'enfoncer dans le conflit et les civils payent un lourd tribut, ce que souligne l'ONU dans son dernier rapport, avec un nouveau record atteint. Depuis le début de l'année, plus de 1660 civils ont été victimes du conflit.
Sonia Ghezali, correspondante de Radio France Internationale en Afghanistan, et les talibans ce soir qui démentent toute implication dans l'attaque menée contre l'hôpital de la ville de Khor. Ils évoquent une frappe aérienne. Et cette journée a également été marquée par une attaque meurtrière, cette fois au Pakistan voisin, dans la ville de Lahore. Une bombe a explosé sur un marché où la police était déployée pour chasser des vendeurs à la sauvette. La déflagration a coûté la vie à au moins 25 personnes et fait une quarantaine de blessés. À ce stade, il n'y a aucune revendication. C'est une prise de position très forte que celle du président polonais Andrzej Duda, le chef de l'État qui oppose son veto au projet de réforme de la justice. Il tranche donc dans cette crise politique qui opposait le gouvernement conservateur et l'opposition progressiste soutenue par l'Europe, qui manifeste depuis des semaines contre ce qu'elle considère comme une menace à l'État de droit en Pologne. Les précisions depuis Varsovie de Maya Szymanowska.
Ce fut un véritable coup de tonnerre. Le président polonais Andrzej Duda a surpris tout le monde, même les membres de son propre parti, en opposant son veto aux 2 des 3 lois proposées par les conservateurs pour réformer en profondeur le système judiciaire. Des lois qui ont envenimé les divisions au sein du pays et qui ont provoqué des démonstrations monstres la semaine dernière. Personne ne s'attendait à ce que le président prenne une décision aussi rapide et si éloignée de ce que le parti conservateur attendait de lui. Ce soldat fidèle de Jarosław Kaczyński, comme l'appellent ironiquement les médias de l'opposition, ce président sans charisme a décidé de s'émanciper de la tutelle de son parti. Aurait-il cédé à la mobilisation grandissante de la rue? C'est ce que les manifestants voudraient croire. Aurait-il été sensible aux arguments d'Angela Merkel, avec laquelle il a eu une conversation la semaine dernière? Les pressions de l'Union européenne menaçant de couper gonfler les subventions à la Pologne et le mécontentement de l'administration Trump aurait aussi pu jouer un rôle. Les manifestants louent son courage mais ne désarment pas. Le chef de l'opposition libérale rappelle qu'une des trois lois a été signée. Elle donne au ministre de la Justice plein pouvoir pour nommer les présidents des tribunaux et de révoquer les juges. Les deux projets de loi rétoqués par le président risquent de revenir très vite à la diète. Les députés conservateurs ont déjà laissé entendre que la trêve estivale pourrait être écourtée. Le Parlement pourrait se réunir dans les 2 semaines à venir.
Maya Szymanowska, il est le gendre et l'homme de confiance de Donald Trump, Jared Kushner, qui a des comptes à rendre face au Congrès américain. Sur les soupçons de collusion de la campagne Trump l'an passé avec la Russie, Kushner est entendu en ce moment par la commission de renseignement au Sénat. Demain, il devra répondre aux questions de la même commission, mais à la Chambre des représentants cette fois. Et mercredi, ce sera le tour du fils aîné Donald Jr. Trump. Bonsoir Philippe Randé.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture à Washington, Jared Kushner donc ne s'exprime jamais ou très peu dans les médias. Là, il est en pleine lumière, mais les audiences au Sénat ont lieu à huis clos. Il a tout de même tenu à faire entendre sa version des faits avant de s'exprimer devant les sénateurs.
Oui, en costume sombre, Jared Kushner est arrivé au Capitole attendu par des dizaines de journalistes, hein, car si l'audience est à huis clos, la salle est complètement cernée par les caméras. Il faut dire que c'est un témoignage, je vous l'avais dit, particulièrement important, puisque c'est le premier membre du cercle proche de Donald Trump à être entendu sur l'affaire russe, mari d'Ivanka Trump, mais aussi conseiller très très influent. Il s'exprime donc pour la première fois sur ses rapports avec la Russie. « Je n'ai rien à cacher », voilà ce qu'a écrit Jared Kushner dans une note liminaire de 11 pages publiée par plusieurs médias ce matin, une note dans laquelle il dément fortement toute collusion. Je n'ai pas commis de collusion et personne dans l'équipe de campagne n'a commis de collusion. Jared Kushner, connu pour sa grande discrétion, qui revient en détail sur ses différentes rencontres avec des responsables russes. 4 réunions entre avril et décembre 2016, dont 2 rencontres avec l'ambassadeur Sergueï Kislyak. Mais là encore, le gendre du 45e président des États-Unis plaide non coupable. Je cite « Je n'ai pas eu de contact inapproprié ». Selon lui, il s'agissait de rendez-vous tout à fait normaux au moment où il s'occuper pendant la campagne des relations avec les gouvernements étrangers. Quant au fameux rendez-vous en juin 2016 avec une avocate russe en compagnie de Donald Trump Jr., il évoque une perte de temps avant de préciser qu'il n'avait pas vu à l'époque les mails envoyés quelques jours avant la rencontre par un intermédiaire qui promettait au fils de Donald Trump des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Jared Kushner qui, après le Sénat aujourd'hui, s'exprimera devant la Chambre des représentants demain. Jared Kushner qui devrait sortir dans quelques minutes du Sénat et qui pourrait s'exprimer, hein, puisqu'il y a des micros dans la salle du Capitole qui pourraient s'exprimer quelques minutes devant les journalistes.
Philippe Randé, merci à vous. Vous étiez en direct de Washington. Combien sont-ils ces Français partis combattre ou vivre dans le califat de Daesh en Irak ou en Syrie? Combien sont-ils à s'être retrouvés piégés dans la chute de Mossoul? Depuis 2 semaines maintenant et la libération de la ville irakienne par les forces armées, la France se retrouve confrontée à des situations complexes. Les hommes, les combattants sont souvent morts ou en fuite, mais leurs familles sont arrêtées, placées en détention. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Il y a en particulier le cas de cette famille, une mère de 27 ans et ses 4 enfants français détenus depuis le 8 juillet par les forces antiterroristes irakiennes. Leurs proches en France ont entamé une procédure pour obtenir leur rapatriement, mais ça pose beaucoup de questions.
Oui, la jeune femme et son mari, déjà condamnés pour une affaire à caractère terroriste, avaient quitté la région parisienne à l'automne 2015 pour prendre la route de Raqqa en Syrie. Mais ils ne resteront que très peu de temps sur place, rapidement acheminés vers Mossoul, où elle a donc été arrêtée seule avec ses 4 enfants, dont un bébé de 5 mois, tous affamés et très affaiblis. Aucune trace de son mari, dont on pense qu'il a été tué, mais sans confirmation officielle. La jeune mère et ses enfants sont désormais détenus à Bagdad et ses proches réclament leur retour en France. Mais c'est loin d'être simple, explique l'avocat de la famille Vincent Bringart.
C'est un cas emblématique à plusieurs titres. Tout d'abord parce que on se place en Irak et qu'il n'y a pas eu de précédent pour l'Irak, et cas emblématique aussi parce que ça concerne 4 enfants mineurs, et en plus on parle d'enfants qui sont âgés entre 5 mois pour le plus jeune et 6 ans pour le plus âgé. Ça concerne également leur mère qui, elle, contrairement à ses enfants évidemment, peut faire l'objet de poursuites non seulement en Irak mais également en France. La mère qui devra répondre de ces agissements potentiels devant les autorités publiques françaises. Encore une fois, nous, on cherche absolument pas à ce qu'elle se soustrait à la justice française. Elle en répondra et des informations qui ont été portées à notre connaissance, elle n'a aucunement participer à un quelconque acte de terrorisme.
Cela dit, depuis l'an passé, la politique pénale du parquet de Paris s'est considérablement durcie concernant les départs en Syrie, désormais tous traités comme des dossiers criminels. Le ministère des Affaires étrangères a engagé des démarches officielles auprès des autorités irakiennes, démarches diplomatiques particulièrement sensibles, car la justice française et la justice irakienne sont l'une et l'autre compétentes pour juger la jeune femme en question. Et ce cas emblématique ne sera sans doute pas le dernier. On estime à près de 750 le nombre de ressortissants français présents sur les zones de combat en Irak et en Syrie, dont environ 450 mineurs et parmi eux beaucoup de très jeunes enfants.
Florence Turm, merci pour toutes ces précisions. Ni punitif, ni vindicatif. C'est ainsi que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a présenté à l'Assemblée tout à l'heure son projet de loi, dit pour la confiance dans la vie publique, la loi de moralisation de la vie politique. Le texte a été remanié par les sénateurs la semaine dernière. Ils ont renforcé les garde-fous en interdisant les emplois familiaux pour les élus et les ministres, en supprimant aussi la réserve parlementaire. Autant de mesures jugées trop hostiles aux députés et que la majorité En Marche au Palais Bourbon devrait détricoter. Elle voudrait bien attirer l'attention des parlementaires. Les aides-soignantes d'un EHPAD du Jura, la maison de retraite, les Opalines à Foucheran, sont en grève depuis plus de 100 jours. Elles dénoncent les conditions de travail qui leur sont imposées, les conséquences graves surtout que cela a sur la vie des personnes âgées dont elles ont à s'occuper. Depuis 3 mois, la mobilisation ne s'essouffle pas. Le soutien de la population non plus. C'est un reportage de Géraldine Allot.
Sur leur piquet de grève, les aides-soignantes accumulent les soutiens. Ici, un automobiliste qui klaxonne. Là, une riveraine, les bras chargés de bonbons.
Bonjour, un petit kiff pour vous.
Qu'est-ce que vous emmenez là ?
Bah, des fraises Tagada, en fait. Voilà, ils le méritent. Et moi, je suis fière d'eux. C'est grâce à des gens comme ça qu'on peut faire évoluer un petit peu la société, donc c'est bien.
Les grévistes ont organisé une collecte et grâce aux dons, grâce aussi à la paye de leurs conjoints, elles peuvent vivre depuis plus de 3 mois sans recevoir de salaire. Anne-Sophie Pelletier est la porte-parole du mouvement.
Les gens se sentent concernés. En même temps, regardez aussi l'âge des personnes qui nous amènent tous ces soutiens et qui savent très bien qu'un jour, ce sera peut-être eux qui seront dans des EHPAD et qui ont envie d'être bien prise en charge. Et je pense que les consciences s'éveillent et qu'on commence à penser un peu à nos anciens.
Les pensionnaires de la maison de retraite et leurs familles sont plus divisés. 34 d'entre eux ont signé une lettre pour demander la fin de la grève. Mais beaucoup aussi la soutiennent, comme Muriel, dont la mère est l'une des résidentes des Opalines et qui dénonce des sous-effectifs chroniques.
Moi, comme me dit ma maman, hein, c'est petite toilette. Un petit coup le minou et un petit coup la figure. Elle est restée à un moment donné 15 jours sans avoir de douche ni les cheveux lavés, quoi. Non, elles sont vraiment pas assez nombreuses. Et il faudrait au moins 2 ou 3 de plus, je pense, quand même.
Après quelques tentatives infructueuses, les négociations entre grévistes et direction sont au point mort.
Géraldine Allot à Foucheran dans le Jura pour France Culture. L'attente toujours prolongée à l'usine GMES de la Souterraine dans la Creuse. Les salariés ne seront pas fixés sur la reprise de leur entreprise avant le 31 juillet. Le tribunal de commerce de Poitiers vient d'accéder à la demande du candidat à la reprise, l'unique candidat, la société GMD, pour repousser donc la période d'observation d'une semaine. Ce n'est pas forcément un candidat que l'on attendait cette fois dans la course à la reprise. d'Alitalia, la compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair, a déposé une offre pour racheter donc sa concurrente italienne. Alitalia, ancienne compagnie nationale en faillite, a dû être placée sous tutelle de l'État qui l'a mise en vente au mois de mai. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Ryanair se porte candidat, mais à la condition d'une restructuration qui s'annonce drastique pour les 12 500 salariés italiens.
Et on ne connaît pas précisément encore les termes de cette offre de Ryanair, mais la compagnie irlandaise a d'ores et déjà posé ses conditions pour reprendre Alitalia. Ça passe d'abord par une restructuration significative, selon Michael O'Leary, le PDG de Ryanair, et l'assurance qu'Alitalia opérera de manière rentable, bref, une réduction des effectifs. Michael O'Leary qui a d'ailleurs déclaré le mois dernier, Alitalia a transporté 24 millions de clients avec 14 000 employés l'an dernier. Nous en avons transporté 120 millions avec 12 000 salariés. Ryanair veut aussi s'assurer que la compagnie italienne rompra ses liens avec l'État italien et sortira de la co-entreprise avec Air France KLM et Delta Airlines, qui empêche Alitalia d'assurer des vols longs courriers. Alitalia, c'est la plus grande compagnie aérienne en Italie. Elle compte 12 500 salariés aujourd'hui. Des salariés qui, au mois de mai, ont rejeté un plan de restructuration qui prévoyait 1 700 suppressions d'emplois et une baisse de 8% de certains salaires. Depuis, Alitalia a été placée sous la tutelle de l'État qui cherche donc un repreneur pour éviter la faillite du groupe. Et il n'y a pas que Ryanair qui est intéressé puisque, selon les médias italiens, Etihad Airways, actionnaire à hauteur de 49% d'Alitalia, et EasyJet ont notamment déposé une offre.
Fiona Mogadam, on reste dans le ciel avec des pluies pour un grand quart nord-est. Un ciel nuageux mais sec ailleurs. Voilà pour la météo de notre soirée. Demain, on devrait se réveiller sous les gouttes des Pyrénées aux frontières belges et allemandes. De belles éclaircies reviendront par l'ouest. Cette édition était réalisée par Jean-François Braun. À 22h, vous retrouverez Antoine Maret pour le prochain journal.